c'est sûr que les premières années, on était à l'école. Fait que on faisait en parallèle de nos études. Fait que évidemment, le tempo était pas le même. On a aussi réalisé qu'on n'avait pas d'expérience. Donc, on était passé d'un boss boy d'un restaurant, un président d'une entreprise de tech. C'était un méga jump. Puis, on voulait pas se planter. ThirdBridge se différencie vraiment par la qualité de l'expérience utilisateur. Donc, on a compris rapidement que c'est le point qui fait la différence si un produit est adopté ou pas. Si nos logiciels sont pas intuitifs, ils seront pas utilisés. S'ils sont pas utilisés, les objectifs de nos clients vont pas se réaliser, ils seront pas atteints. Nous, on avait toujours une vision d'avoir un projet qui allait perdurer dans le temps, qui allait être pérenne. Puis sans expérience, il fallait faire attention. Fait qu'on avait un joueur qui pouvait nous élever. On était un peu dans leur ombre. Fait que ça a été quelque chose aussi qu'on a réalisé. Fait que travailler avec un partenaire qui est aussi gros que ça, souvent, il nous écrasait un peu. Par contre, il nous emmenait des revenus puis il nous permettait de bâtir de l'expérience à travailler avec des gros projets d'envergure.
Quels ont été les résultats de vos initiatives marketing?
Ultimement, on essaie des trucs. Donc, on n'a pas une énorme équipe. On n'avait pas un énorme budget. Là, le budget augmente puisqu'on se rend compte que ça crée de l'impact. Mais ça a été justement des belles campagnes marketing. Essayer des trucs que nos compétiteurs faisaient pas.
Comment vous êtes venu à l'idée de se dire c'est un podcast qu'on a besoin?
Le podcast, un de tes balados, ça prend 100 épisodes avant que tu vois des retombées. Donc, on en est encore là aujourd'hui. On essaie des choses. On veut montrer nos propres couleurs via le podcast. On est qui? Qu'est-ce qu'on fait? Mais ultimement, c'est une game de notoriété pour nous. Puis, ça va se faire sur le long terme.
Donc, bienvenue à tous. Un nouvel épisode du podcast Hypercroissance. Et j'ai la chance aujourd'hui de m'entretenir avec Pierre-Étienne Bousquet, président et cofondateur de la firme ThirdBridge, une firme qui se spécialise dans la création d'applications mobiles et qui est en affaires depuis 2012 maintenant. Aujourd'hui, l'entretien est totalement fascinant pour quelques raisons. La première raison, c'est que Pierre-Étienne a été très honnête dans les réponses qu'il a données sur le podcast. Et je vous explique un peu qu'est-ce que je veux dire par là. De 2012 à 2018-2019, ThirdBridge n'avait pas tellement connu de croissance. C'était une organisation de 7-8 personnes qui étaient bien établies, faisaient leurs projets, mais n'avaient pas atteint encore cette fameuse phase où est-ce que tu es capable d'aller enchaîner les mandats un après l'autre et d'engager beaucoup de personnes. Et là, tranquillement, avec l'arrivée de la pandémie, les transformations numériques se sont faites dans les grandes entreprises au Québec. ThirdBridge a pris son envol. Et ce que j'ai adoré avec Pierre-Étienne, c'est qu'il a été très franc en disant, nous, on l'a pas connu la croissance. Ça l'a pris 8 ans avant qu'on la connaisse. Et ça, je trouve ça donc intéressant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui se disent, moi, j'ai pas encore connu la croissance forte avec mon organisation. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. Des fois, on le voit, ça peut prendre 6, 7, 8 ans pour des entreprises. Des fois, ça peut être plus rapide, mais on ne doit pas baisser les bras. Si on fait les bonnes choses jour après jour, ultimement, on va être capable de trouver la bonne approche et de passer dans une accélération. Également, Pierre-Étienne nous parle de l'incroyable culture qui réside chez ThirdBridge. Ils ont des taux de rétention qui frôlent les 100% avec leurs employés dans un environnement donc compétitif. Soyons honnêtes, le volet TI au Québec est un environnement où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de création d'emplois, mais davantage des emplois qui sont volés d'une entreprise à l'autre. Et ThirdBridge est capable de tirer son épingle du jeu. Pierre-Étienne nous parle de ce qui les distingue au niveau culture à l'intérieur du podcast. Il nous parle également de qu'est-ce qu'on a besoin de faire si on veut travailler avec des énormes comptes. ThirdBridge travaille avec des Couche-Tard, les Duproprio de ce monde. Donc, encore une fois, des bons trucs, des bonnes astuces qui vont être données par Pierre-Étienne. Également, je vous rappelle que le 24 mai prochain aura lieu le premier événement du podcast Hypercroissance, l'événement qui va se nommer Panel d'Hypercroissance. Et on a fait l'annonce très récemment sur le podcast que le premier panel sera composé de Simon Deben de Workleap, Vincent Kelly de Sanivac et Vincent Gauchard de Logian. Les trois vont nous parler et vont débattre ensemble de croissance par acquisition. Les deux autres panels seront connus sous peu. On vous le dit, on a été capable de vendre tous les billets en l'espace de 72 heures, mais au vu de la demande qui était grandissante, on a décidé de prendre une plus grande salle. Et au moment où on se parle, le 29 avril, bref, vers la fin du mois d'avril, il va rester moins que 50 billets parce que j'enregistre cette introduction le 23 avril 2024 et il ne reste que 50 billets. Donc, faites vite, on ne pourra pas prendre une plus grande salle à quelques semaines de l'événement. Donc ça, ce sera les derniers billets disponibles. Également, cet événement ne pourrait pas avoir lieu sans l'aide de nos incroyables partenaires et j'ai nommé premier d'entre eux, Hello Darwin. Hello Darwin qui est une plateforme de mise en relation qui vous permet de trouver votre prochain partenaire marketing. Donc, moi-même, chez G7, chez Pure Commerce, avec mes différentes entreprises, j'ai utilisé utilisé Hello Darwin tellement souvent dans le passé. Je cherchais quelqu'un qui pouvait faire des vidéos pour nous, j'allais sur Hello Darwin. Je cherchais quelqu'un qui pouvait gérer des campagnes Google Ads, j'allais sur Hello Darwin. Essentiellement, Hello Darwin me mettait continuellement en relation avec des experts dans le domaine du marketing et peut faire la même chose pour vous. C'est 100% gratuit, vous remplissez un formulaire sur leur site internet et en l'espace de quelques heures seulement, l'équipe de Hello Darwin va mettre en contact des agences de marketing avec votre projet et vous allez recevoir des messages de ces agences qui vont vous présenter leurs différents services. Également, Hello Darwin offre une nouvelle ligne de service en 2024 où ils vont aider des organisations comme la vôtre à faire toutes les démarches possibles pour avoir accès aux subventions offertes par le gouvernement. Donc, faites vite, allez sur hellodarwin.com pour en savoir un peu plus. Le deuxième partenaire, c'est le groupe Plante. Le groupe Plante, c'est facile pour moi d'en parler parce que c'est une entreprise dirigée par Simon Plante. Simon Plante, c'est lui qui gère mon argent depuis plusieurs années maintenant et je vous recommande ses services. C'est un pro du domaine boursier, la gestion de patrimoine. Il connaît ça depuis des dizaines d'années maintenant et il a des résultats assez exceptionnels avec ses clients. Il gère plus d'un milliard d'actifs, sous gestion. Vous imaginez un peu. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un qui peut regarder vos finances, vous donner un deuxième avis et vous aider à avoir des meilleurs retours à la bourse, allez parler avec Simon Plante. Il va faire une analyse gratuite de votre portfolio. Il va pouvoir vous donner des bonnes recommandations pour la suite. Et le dernier partenaire de l'événement, c'est Acombago. Acombago, c'est le plus ancien logiciel de comptabilité au Québec. Imaginez, plus de 40 000 PME ont utilisé leur service depuis le départ. Acombago, c'est une organisation que je connais également, que je recommande. Donc, si pour votre entreprise, parce que eux, ils se spécialisent clairement pour les petites et moyennes entreprises, donc de 1 à 50 employés. Si pour votre entreprise, vous avez besoin d'un logiciel de comptabilité, allez voir Acombago, le lien dans les notes de l'épisode. Encore une fois, vous allez pouvoir aider une entreprise québécoise et vous allez avoir un service totalement hors du commun comparativement aux autres joueurs américains qui n'offrent pas tellement de services à leurs clients. Également, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. Ça nous donne un petit coup de main. Et sur ce, je vous souhaite un excellent épisode pour l'histoire de Third Bridge. Pierre-Étienne Bousquet, tu es le président et cofondateur de l'entreprise Third Bridge, une firme de Montréal spécialisée dans le développement d'applications mobiles et de solutions logicielles sur mesure. Votre entreprise travaille avec les plus grands fleurons québécois comme Couche-Tard, Duproprio et a vécu une croissance importante dans les dernières années, l'ayant amené à plus de 60 joueurs dans l'organisation. Pierre-Étienne, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci Antoine.
Et Pierre-Étienne, avant de retracer le beau parcours de Third Bridge, est-ce que ce serait possible pour toi d'expliquer à notre audience ce qui vous différencie des joueurs dans votre milieu, ce qui fait de vous quelqu'un de différent?
Oui, absolument. Nous, au-delà de la qualité puis des pratiques d'ingénierie, pour nous, c'est la base quand une entreprise dans le développement logiciel. Third Bridge se différencie vraiment par la qualité de l'expérience utilisateur. Donc, on a compris rapidement que c'est le point qui fait la différence si un produit est adopté ou pas. Si nos logiciels sont pas intuitifs, ben, ils seront pas utilisés. S'ils ne sont pas utilisés, bien, les objectifs de nos clients ne vont pas se réaliser, ils ne seront pas atteints. Fait que ça, c'est un élément qui est assez clé pour nous, qu'on a compris assez tôt dans notre histoire. On a aussi l'accessibilité et l'engagement de notre équipe. Ça crée des relations qui perdurent dans le temps. Nos clients viennent nous voir parce qu'ils veulent avoir des relations avec des gens dans notre équipe. Puis ça, c'est énorme. Puis finalement, bien, Third Bridge, c'est un guichet unique. Donc, on va faire la stratégie, le design, le QA, la maintenance. Puis ça nous aide à vraiment créer des expériences uniques d'impact.
Et bon, c'est assez intéressant parce que là, Third Bridge a 12 ans. Et bon, pour les gens qui écoutent le podcast sur YouTube, vous le verrez peut-être. Pierre-Étienne n'est pas tellement vieux. Donc, à mon avis, tu as lancé ça pas tellement loin avec la fin de tes études. Peut-être même que tu étais encore aux études. Ouais. Comment ça s'est lancé tout ça en 2012?
Ouais, on est encore sur le banc d'école, je te dirais. Donc, nous, c'était une transition entre le cégep et puis l'université. On était une gang d'amis, on était quatre. Puis, on avait assez, une grande passion pour la techno, mais on n'était pas tous en techno. On n'allait pas tous rentrer en techno. Donc, moi, c'était plus le volet business. Et puis, j'avais des associés qui allaient rentrer en génie logiciel. Puis, on s'est dit, let's go. On a la possibilité d'aller jouer dans les technologies, de bâtir des plateformes web, plateformes mobiles, puis de vraiment aller se bâtir de l'expérience. Donc, on a commencé avec des projets, vraiment des projets personnels, des jeux, des idées qu'on avait derrière la tête. Mais où est-ce qu'on a vu un filon intéressant? C'était avec le mobile. Donc, c'était l'arrivée du iPhone 4. Je sais pas si tu te souviens, Antoine, mais c'était dans ces années-là, là, c'était iPhone 4, iPhone 5 peut-être. Puis on avait les App Store qui étaient en pleine expansion. Donc, tout le monde voulait une application pour peu importe. Tu avais un commerce, tu avais un site web, il te fallait l'application mobile. Puis nous, on a commencé à gratter un peu sur cette opportunité-là. Puis ouais, donc on a commencé dans ces années-là à juste bâtir des plateformes. Puis on a commencé même à cogner à des portes de premiers clients, mais qui étaient très locales. Donc nous, on travaillait dans notre job étudiante à ce moment-là, c'était des restaurants. On travaillait en restauration, puis on a bâti l'application mobile pour le restaurant où est-ce qu'on travaillait. Donc on le faisait de notre côté. Juste pour le fun. Puis quand le propriétaire était venu à notre restaurant, on lui a montré qu'est-ce qu'on avait bâti pour lui. Puis de là est née notre première vente chez Third Bridge. Fait que c'était vraiment, on était en transition, cégep, université. On voulait avoir un projet qui était à nous, un projet qui allait nous stimuler. Puis au lieu de travailler au McDo, ben on travaillait chez Third Bridge sur nos propres projets. Fait que c'était vraiment le fun. C'était une belle période.
Et par la suite, comment qu'on les trouve, les autres clients? Parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Il y en a qui sont plus avancés. Il y en a qui sont au début de leur entreprise. Et dans le domaine B2B, c'est toujours bon de revenir à la base puis de savoir comment qu'on va les chercher, ces clients-là. Donc, vous, de votre côté, là, les premiers clients, au-delà de cette expérience-là, comment vous êtes allé les chercher?
Ouais. Fait qu'au début, c'était vraiment des mom and pop shops. Donc, il n'y avait rien de très, je dirais, très intéressant pour avoir une business qui allait tomber en croissance à un certain point. Donc, on s'est rapidement, on a rapidement réalisé que c'était pas le chemin à prendre. Fait qu'on s'est retourné vers une stratégie qui était de se coller à des agences marketing. Donc, nous, on était des petits joueurs. On demandait pas nécessairement cher non plus. Fait qu'on était une aubaine pour ces joueurs qui étaient dominants dans l'industrie. Donc, les agences marketing établies à Montréal, on a cogné à toutes les portes. Puis, ultimement, pour nous, c'était de pouvoir développer des relations. Encore le concept de développer des relations long terme. On était comme, avec ces quelques clients marketing, on va être capable de vraiment d'avoir de l'eau au moulin sur plusieurs années et puis aller chercher un beau volume de projets. Puis, ça a été notre stratégie, vraiment. Donc, on s'est collé à des plus grands qui nous ont ramené des projets d'importance. Fait que des fois, on se pincelle, on travaillait sur des projets qui avaient pas de bon sens, qu'on était quatre dans le sous-sol en train de réaliser des projets d'envergure comme ça. Et on s'est pété la face une couple de fois aussi, mais reste que on était bien positionné, bien encadré. Fait qu'on avait un joueur qui pouvait nous élever. On était un peu dans leur ombre. Fait que ça a été quelque chose aussi qu'on a réalisé. Fait que travailler avec un partenaire qui est aussi gros que ça, souvent, il nous écrasait un peu. Par contre, il nous emmenait des revenus, puis nous permettait de bâtir de l'expérience à travailler avec des gros projets d'envergure. Fait que ça a été comme ça qu'on a parti vraiment à se coller à ces joueurs-là pour éventuellement, ben on pourra en parler un peu plus tard, mais éventuellement transitionner vers des relations directes avec ces grands joueurs-là.
Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu me l'as dit très humblement dans un premier appel qu'on eut ensemble, Pierre-Étienne, que vous, la croissance au début, ça vous a pas connu. Ça vous a pris plusieurs années avant de vraiment faire grandir la boîte. Oui, vous aviez quelques clients, oui, vous aviez quelques collègues, mais l'organisation vraiment était capable d'accélérer depuis 3-4 ans maintenant. Je serais vraiment curieux si tu pouvais nous expliquer un petit peu cette première phase de l'entreprise de 2012 à 2019-2020. Qu'est-ce qui, selon toi, vous bloquait à aller chercher cette croissance-là? Je serais curieux de t'entendre ici.
Oui, puis il y a plusieurs facteurs. C'est sûr que les premières années, on était à l'école. Fait qu'on faisait en parallèle de nos études. Fait qu'évidemment, le tempo était pas le même. Par contre, on a aussi réalisé qu'on n'avait pas d'expérience. Donc, on était passé d'un boss boy à d'un restaurant, un président d'une entreprise de tech. C'était un méga jump. Puis on voulait pas se planter. Nous, on avait toujours une vision d'avoir un projet qui allait perdurer dans le temps, qui allait être pérenne. Puis sans expérience, ben il fallait faire attention. On voyait des gens autour de nous qui allaient très vite, qui avaient pas nécessairement de stratégie, qui avaient pas nécessairement non plus un core. Puis le core pour nous était hyper important. Donc autant pour la culture, on a réalisé que la culture est importante. C'est pas quelque chose qui se bâtit du jour au lendemain. On a pris le temps de la bâtir, cette culture-là. Donc, on pesait sur les freins. Tout ça pour dire qu'on était un peu sur les freins parce qu'on s'est dit, si on accélère trop rapidement, on va se planter. Ça, c'est la chose qu'on voulait absolument pas faire. C'est la promesse qu'on a donnée à notre gang qui nous a fait confiance très tôt dans l'aventure. On va pas se planter, on va prendre notre temps, puis ça va marcher, notre projet. Puis avec ça en tête, ben on prenait des meilleures décisions de développement des affaires. Donc, on aurait pu prendre 150 sites web, 15-20 000 $, puis on les aurait fait, ces projets-là, puis on aurait été chercher un gros volume, puis on a été chercher une croissance accélérée. On les avait, ces opportunités-là. Par contre, c'est pas, on le comprenait que ça allait être éphémère. On savait que si tu vas chercher un projet à 20 000 $ qui est un one-time, ben après ça, c'est essoufflant parce qu'il faut que tu ailles le remplacer parce que là, tu as embauché pour aller chercher cette croissance-là. Donc, on le voyait du coin de l'œil, quelques compétiteurs que eux sautaient sur toutes ces opportunités-là. Puis, après 9 mois, 12 mois, s'essoufflaient, puis frappaient le mur. Donc, nous, on était comme, tu sais quoi, on va être plus stratégique, puis on va prendre un step back, on va bâtir notre noyau d'entreprise qui va nous permettre d'être la fondation pour prendre l'expansion un jour. Donc, ça nous a pris un certain temps, puis un volet qui était by design. Évidemment, on n'a pas eu toutes les opportunités qu'on aurait voulu. Peut-être qu'on l'aurait fait peut-être un an ou deux avant qu'on ait fait notre vraie croissance. Par contre, ça a été positif. Puis je pense que je regrette pas du tout notre croissance qui était plus au ralenti au début. Mettre la fondation pour pouvoir nous permettre d'accélérer en bonne et due forme, ultimement.
Bien sûr. Intéressant. Et bon, tu l'as dit au départ, vous aviez des mom and pop shops, donc des plus petits clients. Aujourd'hui, on le dit, il y a des Duproprio, il y a des Couche-Tard qui travaillent avec vous, donc des clients d'envergure qui ont été capables vraiment de marquer le Québec et qui continuent de marquer le Québec d'ailleurs. Avant qu'on parle d'accélération et de croissance, qu'est-ce que, selon toi, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui aimeraient faire un petit peu ce shift-là? C'est-à-dire, on travaille avec des petites, des moyennes entreprises, on est dans le volet B2B, et tranquillement, on veut travailler avec des marques de renom, des organisations qui ont beaucoup plus de budget. Quel est le shift de mindset? Quel est le shift d'approche également qu'on doit mettre en place pour, au final, être capable d'aller les chercher, ces gros clients?
Ouais, les gros clients, ce qu'on se rend compte, c'est si tu fais pas la job, ils changent. Donc, ils ont pas de misère non plus à tirer la plug, puis on change de fournisseur. Dans notre cas, avec les grands clients, on livrait coup sur coup. Puis encore une fois, je retourne un peu à notre historique. On était sous les agences marketing. Donc, les agences marketing voulaient pas que nous, on lève la main puis qu'on aille chercher de la business directement. C'était bien moins payant pour eux. Donc, ils voulaient nous garder derrière eux. Par contre, la chose qui était dans notre contrôle, c'est de livrer coup sur coup de la qualité, de l'expérience utilisateur qui était unique, apporter de l'intelligence d'affaires, créer de l'impact pour eux. À un certain point, ils se sont dit, attends une minute, c'est qui les personnes qui sont derrière ces projets-là? On le sait là, que c'est pas l'agence marketing là, qui a toute cette expertise-là. On le sait qu'il y a quelqu'un derrière ça. On veut lui parler. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu commencer à tirer notre épingle du jeu. Donc, on était patients. Puis nous, c'était la tête baissée, on livre, on fait de la qualité, on focus sur qu'est-ce qu'on sait qui va créer de l'impact pour nos clients. Ça a été long. Et quand tu rentres chez un Couche-Tard, mais tu commences avec un mandat de déboguer une app mobile. C'est pas le fun. C'est les pires projets que tu peux avoir dans l'industrie. Débogue-moi ça, s'il te plaît. On l'a pris. Puis on l'a fait, puis on l'a livré, puis après ça rajoute un feature, puis rajoute deux features, puis au final, ben là, on est capable d'être positionné comme un partenaire principal global pour ces entreprises-là, pour ces marques-là, qui s'appuient sur nous pour leur croissance stratégique. Donc ça, c'est vraiment là, ça a été une approche de longue haleine, mais qui a payé. Donc, je dirais la patience, c'est un facteur qui était important, puis vraiment être la tête baissée, pas vouloir aller trop vite, puis juste apporter de la valeur pour ces clients-là, c'est qu'est-ce qu'ils valorisent. Puis quand tu manques ton coût, ils n'ont pas de misère à passer à autre chose. Donc, pour nous, on n'avait pas le droit à l'erreur, puis on l'a compris rapidement, ça.
Très intéressant. Je pense que c'est un point important à se rappeler pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Bon, tranquillement, le vent tourne. C'est la pandémie, vous, qui vous a donné un petit coup dans le dos, on pourrait dire ça comme ça. Les grandes organisations se réveillent pendant la pandémie. On se rend compte qu'il y a des transformations numériques qui, pour certaines d'entre elles, je parle ici des grandes organisations, ont déjà débuté, d'autres vont devoir le faire en accéléré avec tout ce qui se déroule dans le monde. Vous, de votre côté, vous êtes bien placé. Vous avez fait les choses tranquillement depuis plusieurs années. Vous avez une compréhension du marché. Vous avez une équipe qui est solide. Comment ça se déroule? Comment les demandes sont rentrées? Est-ce que ça vous a surpris? Bref, ça serait intéressant que tu nous parles un petit peu de cette période-là.
Ouais, c'est un peu le chaos. Évidemment, ça part la pandémie, incertitude, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est venu assez rapidement, Antoine, que le téléphone a sonné. Les courriels ont rentré de dire, OK, il faut qu'on équipe nos employés avec des meilleurs outils. OK, il faut qu'on crée des meilleures plateformes pour nos utilisateurs, pour nos clients. On dirait qu'il y a eu juste un shift de mindset de ces grandes entreprises-là de dire, il faut qu'on pèse sur l'accélérateur. Puis nous, ultimement, c'était un peu la parfaite tempête parce qu'on était bien situé. on avait les petits projets, si tu veux, de maintenance, puis des petits projets d'évolution pour ces grandes entreprises-là. Par contre, quand on est rentré, quand est venue la pandémie, ben là, c'est OK, on a telle idée, on a tel projet. Les budgets se sont débloqués. Puis c'est là que c'est devenu un peu fou. Ils sont venus nous voir, puis c'était tout le temps intéressant parce que ils savaient qu'on n'était pas gros. À ce moment-là, on était peut-être 8-9 personnes dans l'entreprise, mais ils voulaient vraiment qu'on évolue avec eux. Donc, ils étaient comme, OK, combien de temps que tu as besoin pour bâtir l'équipe? Combien de temps que tu as besoin pour être capable de commencer à travailler sur mon projet? Puis pour nous, c'était tellement intimidant de se dire, OK, là, c'est une vraie opportunité de croissance. Faut pas qu'on manque notre coup. Puis c'était le focus absolu sur trouver le meilleur talent possible. Puis à ce moment-là, faut pas oublier non plus que le talent, on se l'arrachait. Donc, c'est excessivement difficile de trouver du bon talent. Puis je pense qu'on a fait vraiment une bonne job à ce niveau-là. Puis on pourra en parler un peu plus tard, mais vraiment, c'était les courriels, les projets, les budgets qui se sont débloqués. Puis nous qui étaient assez patients pour bien se positionner, puis on était là pour répondre à l'appel. Puis on avait tellement des bonnes relations avec les clients qu'il fallait pas leur mentir non plus à dire « Ah, ben nous, on a l'équipe de 50 personnes, 60 personnes. » On n'était pas encore là. Par contre, ils voulaient avoir une croissance avec nous, puis ils étaient comme fiers de le faire avec nous, de nous donner une chance parce qu'on les avait pas déçus, on les avait pas laissés tomber auparavant. Puis je pense que ça a été vraiment ça qui a fait notre succès. Mais c'est assez fou, c'est une belle période pour nous.
Et quand tu dis vous les aviez pas laissés tomber auparavant, est-ce que tu dirais que c'était davantage des gens avec qui vous aviez fait des petits mandats qui sont revenus vous voir pour avoir des plus gros mandats ou c'était vraiment un nouveau spectre de clients qui venaient cogner à la porte?
Ouais, donc c'est quand tu travailles avec des plus grandes entreprises, ce qui arrive, c'est que tu vas avoir des petits mandats avec des, disons, des gestionnaires de comptes ou de divisions. C'est plus des managers. Par contre, quand les projets stratégiques débloquent, mais là, c'est comme un autre niveau. Donc, c'est pour nous, c'était des nouveaux clients à l'intérieur de ces grandes organisations-là, des vice-présidences qui nous appelaient d'innovation, de loyauté, donc de fidélisation pour ces entreprises-là. Donc, je reviens au projet stratégique d'impact pour les entreprises débloqué. Puis là, il y a une discussion autour de la table de ben ça va être qui notre fournisseur pour nous accompagner dans cette transformation-là. Puis notre nom était là. Donc, c'est là que les gens levaient la main, puis ils n'avaient pas peur parce qu'il fallait se faire référer. On n'était pas connus à l'intérieur des grandes entreprises. Et il fallait que les directeurs de compte ou les managers avec qui on travaillait lèvent la main puis disent « Third Bridge, je pense que ça serait un bon partenaire pour nous. » Puis c'est là que ça a été une job de référence, ultimement. Et les gens étaient prêts à mettre leur nom collé au nôtre. Puis ouais, ça a été là que on les a pas laissés tomber. Donc, ils nous ont référé à leur patron. Puis ça l'a déboulé comme ça.
C'est là que ça l'a accéléré. Ouais. Mais bon. Qui dit nouvelle clientèle, dit nouveau projet dans le service, dit nouvelles embauches. Tu l'as parlé un petit peu plus tôt, les entreprises se volaient littéralement les employés. On parle souvent de création d'emplois, mais je pense qu'on peut davantage dire des vols d'emplois qui se déroulaient d'une entreprise à l'autre. Bon, pour situer l'audience, avant la pandémie, combien vous êtes?
Je dirais 8.
8, OK. Combien de temps que ça a pris avant d'atteindre 30, 40 employés? À quelle vitesse tout ça s'est fait?
Ça s'est fait, je dirais, sur 2 ans. On a à peu près atteint... On était probablement une vingtaine d'embauches par année. À ce moment-là, ça allait assez vite. Puis, on était 8. Donc, on n'avait jamais connu. On était 8 en à peu près 8 ans pour ensuite en faire 8 en 4 mois. Là, c'était assez particulier. Pour nous, c'était surtout aussi un défi de le faire à distance. Donc déjà que c'était intimidant de faire autant d'embauches aussi rapidement, fallait le faire à distance, puis on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Et ça a fonctionné parce qu'on a une culture, je crois, qui était palpable. Les gens pouvaient le sentir que même si on n'était pas dans les bureaux tous les jours, qu'il y avait quelque chose qui se passait chez Third Bridge, que les valeurs étaient aux bonnes places. Puis ça nous a joué, ça a vraiment joué en notre faveur d'avoir établi ces valeurs-là de facto, de pouvoir miser sur elles. Quand on a rentré quelqu'un pour nous aider, en fait, une anecdote, là, notre responsable au marketing à l'époque, qui était probablement notre 8e ou 9e embauche, parce qu'on s'est dit, faut miser fort sur la marque employeur. Et les gens ne nous connaissent pas dans l'industrie, il va falloir qu'on recrute. On va se trouver une directrice marketing. Puis c'est assez intéressant parce qu'elle a passé de faire autant du marketing marque employeur à faire des relations, des ressources humaines, ultimement, à faire de l'embauche avec moi. Donc, c'était quand même un mandat un peu atypique pour Virginie qui nous écoute. Puis c'était tout qu'un défi. Donc, on l'a fait un peu à la mitaine au début, mais on a parler de qui on est, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos projets. Puis on a eu des belles stratégies justement en marketing pour nous supporter dans cette croissance-là. Donc, on était hyper présent sur Instagram, par exemple. Puis ça, c'est intéressant, c'était quelque chose qui se faisait moins dans l'industrie, c'était un peu moins traditionnel, mais on avait un beau Instagram. Puis ce qui arrivait des fois, c'est qu'on avait des applicants qui disaient « Ah, ben mon chum ou ma blonde ont vu ça sur Instagram, puis ont vu que ça avait l'air le fun de travailler chez Third Bridge, puis m'ont dit que je devrais appliquer. » Fait que des fois, on a réussi à aller chercher, à se démarquer un peu sur des stratégies qui étaient moins standards. Sur notre énergie, notre culture en général, puis ça nous a permis d'accélérer comme ça, puis de faire des bonnes embauches. Parce qu'évidemment, quand tu parles d'accélération, tu peux faire beaucoup de mauvaises embauches. On en a fait principalement que des bonnes, puis ça nous a emmené à aller de l'avant puis pas reculer. Des fois, tu sais, tu fais un pas par en avant, deux par en arrière. Dans notre cas, on en faisait vraiment deux, trois par en avant, puis peut-être un demi par en arrière par moment, mais on était vraiment... On faisait bien notre travail, puis on a réussi à se démarquer à ce niveau-là.
Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à décortiquer ici. Donc, on prend un petit temps d'arrêt. Vous êtes 8, vous passez à peu près une vingtaine d'embauches par année. On va essayer de résumer le tout avec ce chiffre. Il y a beaucoup de gens qui vont écouter le podcast aujourd'hui, qui vont être en période d'embauche dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Est-ce que ce sera des périodes d'embauche autant massives que vous avez vécues? Peut-être que oui, peut-être que non. Tu m'as mentionné dans un entretien, dans un appel qu'on a eu ensemble il y a quelques semaines, que votre taux de rétention d'employés frôle le 100%. Je pense que vous perdez quasiment aucun employé. Donc, clairement, c'est quelque chose que vous excellez. C'est un petit peu peut-être même votre zone de génie ici. Les leçons, les apprentissages que tu tires de cette période-là au niveau ressources humaines, qu'est-ce que tu pourrais partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui vous a aidé à bien intégrer les gens dans l'entreprise, à bien leur faire comprendre la culture, la mission de l'organisation, puis ultimement, à garder ces gens-là heureux parce que faut se rappeler, je terminerai là-dessus, il y avait beaucoup d'organisations comme la vôtre qui essayaient d'aller les chercher, ces employés-là.
Ouais, puis c'est dur de mettre le doigt dessus. Il y a de l'intangible, mais il y a quelques pistes qui me viennent en tête quand tu me poses cette question-là. Je pense que moi puis Nicolas, mon cofondateur, on a bâti l'entreprise comme une entreprise où est-ce qu'on voulait travailler ultimement. Donc, on se voit un peu une compagnie lifestyle où est-ce que c'est une entreprise qui a des bonnes valeurs, parce que c'est le fun de travailler le lundi matin. On rentre au boulot, puis c'est agréable. Puis on a gardé un peu notre même feel qu'on avait quand on était étudiant, puis on travaillait sur Third Bridge. C'est, je travaille pas au McDo, je travaille sur mon projet. C'est trippant, puis je travaille avec des amis. Puis cette valeur-là d'amitié, on l'a gardée. Puis on se fait beaucoup challenger encore aujourd'hui sur le fait que l'amitié au travail, c'est oui, mais faut faire attention. Puis nous, on saute à pieds joints dans cette valeur-là parce que on sait que ça nous mène plus loin. On sait que c'est la fondation de notre business. C'est ça qui nous emmenait ensemble. C'est ça qui nous emmenait à bâtir Third Bridge. Puis il y a aussi, même un niveau plus loin que l'amitié, c'est la famille. Donc maintenant, on est rendu avec un noyau familial chez nous. Donc ça a été maintenant des associés qui sont la fratrie complète de Nicolas, mon associé. Donc on a Alexandre, grand frère, Émilie, la grande sœur, qui sont partenaires dans l'industrie, dans notre business. Puis ça aussi, ça crée.
Donc, vous avez ouvert l'actionnariat?
On a ouvert l'actionnariat. Puis aujourd'hui, je pense qu'on est on est à peu près 8 dans l'actionnariat au complet. Donc, quand même. Ça aussi, ça nous a aidé à solidifier le noyau central de l'entreprise, notre top talent, qu'on s'est dit, c'est avec eux qu'on veut bâtir la business. On a ouvert l'actionnariat pour eux. Ça a été payant. Il y a eu un moment qu'on se rendait compte qu'on l'ouvrait trop. Donc, on voulait l'offrir à tout le monde, comme un peu une business de produits. Donc, tout le monde va avoir un peu d'equity. On a essayé de faire ça, ça n'a pas nécessairement fonctionné. Par contre, quelques personnes clés pour qui ça parlait beaucoup, pour qui était comme, ça, c'est mon projet, je suis prêt à me joindre à l'aventure pour le long terme. Eux, ça a eu un impact, puis ça a encore un impact aujourd'hui. Donc, on a réussi à faire ça, vraiment se rattacher, notre noyau très proche, on a le noyau familial. On a bâti une business comme on la voulait. Puis, je pense que ça se ressent parce que quand on a eu l'accélération, on n'avait pas un bout de papier qui disait c'était quoi notre vision, notre mission, nos valeurs. Donc, on n'était pas non plus 100% gearé pour le communiquer, mais ça se sentait quand tu venais chez nous. On était qui? Qu'on était authentique, qu'on était des gens comme moi puis toi, qui se prenaient pas pour d'autres personnes. Puis je pense que ça a beaucoup résonné avec nos recrues. Donc voilà, ça c'est un peu des pistes qui me passent par la tête. Je pense pas qu'il y a de recette parfaite pour tout le monde. Pour nous, on était nous-mêmes, puis ça a fonctionné.
Tu m'ouvres une porte ici. Ouvrir l'actionnariat dans le service. Peux-tu nous expliquer de un, puis par la suite, on pourrait analyser un petit peu la philosophie derrière, ce que ça l'a amené de bien. Mais de un, peux-tu nous expliquer la structure que tu as mis en place ici? Est-ce que c'est une structure de rachat d'actions classique? Est-ce que vous avez mis certaines clauses sur les actions? Comment tout ça s'est mis en place?
Je pense que c'est notre troisième itération. Donc, on s'est planté un peu au début. Initialement, c'était c'est un régime d'options, d'actions. Puis on l'a ouvert à tout le monde. Fait que c'est vraiment, dépendamment à quel moment que, mais on était 8. Fait qu'oublie pas non plus que c'était pas trop intimidant. On s'est dit.
OK, ça s'est fait avant. Intéressant.
On était un peu dans cet esprit-là de partage, d'impliquer tout le monde qui participait au projet. Puis donc, c'est ça. Ça nous a emmené à mettre un régime en place qui était ouvert à tout le monde. Qui était assez généreux, puis on s'est rendu compte que certaines personnes, ça n'avait aucun impact. Même il y en a que ça stressait. Il était comme, ah, ben ça vient peut-être avec des responsabilités, je comprends pas trop, c'est sur du long terme aussi, donc évidemment, il y a un type de vesting. Puis ça faisait peur à des gens, donc ça n'avait juste pas d'impact. Par contre, pour d'autres personnes, ça a eu un impact. Puis à un certain point, on s'est dit, tant qu'à faire toute la paperasse pour tout le monde, puis que ça va pas intéresser nécessairement tout le monde, on va le fermer puis on va le faire pour des personnes à qui on sent que ça va avoir réellement un impact. Donc, on a refermé l'actionnariat, on l'a ouvert, on l'a refermé, on a gardé les personnes, les joueurs clés à qui on l'avait déjà offert. Eux sont restés actionnaires. Puis aujourd'hui, on est vraiment en mode philosophie de on va vendre nos actions aux employés qui veulent participer. Donc, on va pouvoir identifier des gens qui lèvent la main, qui nous disent « Moi, ça m'intéresse d'être actionnaire de Third Bridge », qui vont avoir prouvé qui créent de la valeur pour l'entreprise. Puis on va pouvoir leur vendre des actions. Donc ça, c'est vraiment un peu notre mindset aujourd'hui pour avoir du skin in the game. Parce que si tu mets pas un peu de capital, on se rendait compte que des fois, c'est un peu pris pour acquis. Puis quand tu reçois quelque chose rien, ben ça vaut rien dans ta tête. Tandis que si tu mets des sous, si même tu es obligé de faire un prêt pour devenir actionnaire d'une entreprise, c'est un autre sentiment. Donc, on est beaucoup plus dans ce mindset-là. Puis là, c'est qu'est-ce qui est en place aujourd'hui de notre côté. C'est vraiment, on va vendre des actions à des employés clés. Puis pour le reste, ben là, il est déjà locked in. Donc, les 8 qui ont des actions, incluant moi, sont actionnaires, vont rester actionnaires. Puis les nouveaux, ben, ça serait des ventes. Donc, on essaie de simplifier comme ça.
Ouais, ben écoute, ça fait énormément de sens. Il y a deux points qui me viennent en tête ici. De un, est-ce que vous avez, et pardonnez-moi l'anglicisme ici, capé le maximum de pourcentage que vous êtes prêt à offrir? Question 1 et question 2, je serais curieux de savoir l'impact que ça a eu quasiment 5 ans plus tard, parce que si vous l'avez lancé quand vous étiez 8, ça devait être aux alentours de 2019. Donc, je serais curieux. Le cap et également l'impact que ça a eu avec les employés qui ont investi de l'argent pour avoir des actions.
Ouais, nous, on l'avait capé à 15%.
15%, on s'entend pour l'entièreté des gens qui veulent en acheter. On est d'accord?
Exact, c'est en plein ça. Quoique aujourd'hui, on est un peu ouvert à se dire que peut-être dans le futur, on va pouvoir faire un exit avec nos employés. Donc, peut-être que ça va être de continuer à l'ouvrir. Puis nous, les actionnaires principaux, c'est de risquer jusqu'à un certain point, puis faire un exit progressif. Donc, faire une genre de transition avec nos employés. Donc, on n'a pas une vision de faire un exit dans 3-4 ans à un géant de l'industrie. C'est pas ça notre vision du tout de la business. On va avoir une compagnie qui va durer dans le temps. Et où est-ce qu'on va pouvoir avoir une équipe qui va peut-être reprendre la business? Puis ça, cette vision-là nous intéresse un peu à la LG2. On aime beaucoup leur modèle. Et je dis pas que c'est facile à faire. Je dis pas que c'est parfait. Par contre, de garder le ownership québécois ici avec des gens qui ont été impliqués dans la business depuis le début, ça me parle énormément. Donc, il y a peut-être une ouverture de justement, pas juste parler du 15, mais peut-être vendre plus, puis tranquillement faire une transition de propriété à l'équipe d'employés. Donc, il y a cet aspect-là.
Intéressant. Fascinant même. Bon, on continue un petit peu avec l'évolution qui se déroule de Third Bridge. Tu nous as parlé du volet RH, tu nous as parlé un petit peu du volet de croissance. Bon. Moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du côté plus complexe d'avoir des très, très gros comptes. C'est-à-dire que d'un côté, ça peut être totalement fantastique parce que on a des gros mandats. On est fiers de dire qu'on s'associe avec ces clients-là. Mais comme tu le dis, ils sont exigeants et ils ont raison de l'être, ces clients, d'être exigeants. Et quand on a des très, très gros, ben ces gros clients-là peuvent représenter une très bonne partie de ton chiffre d'affaires. Donc, d'un autre côté, ton entreprise peut, par extension, être davantage fragilisée. Mm-hmm. Parce que si on perd un gros compte, malheureusement, on va peut-être avoir à faire des changements à l'intérieur même de notre entreprise. Comment tu arrives et comment vous arrivez à naviguer à travers tout ça pour, bien entendu, continuer à gauche de travailler avec des gros clients, mais à droite, quand même, de sécuriser l'entreprise et de ne pas être pris s'il y a un changement d'administration, un changement de garde au niveau de la direction, nouvel appel d'offres, et là, vous perdez le client. Malheureusement, ça impacte négativement l'entreprise.
Ouais, Antoine, c'est notre défi au quotidien. Je pense que c'est vraiment ce qui est top of mind pour nous. Tu l'as dit, ça a été... Aujourd'hui, on a quelques gros clients qui représentent une majorité de notre chiffre d'affaires, puis c'est notre réalité. On l'admet, puis on est conscient de ça. Ça a été notre tremplin, ces clients-là. Puis pour accélérer pour la croissance, il fallait mettre tout notre focus sur ces clients majeurs-là. Par contre, on s'est créé des angles morts. Les gens ne nous connaissaient pas dans l'industrie. Donc, si tu regardes à l'extérieur de ces quelques clients-là, plus tu recules peut-être 24 mois, les gens ne nous connaissaient pas. Donc, on pouvait faire des appels d'offres, on n'était jamais invité, personne ne nous parlait, personne ne nous connaissait. Donc ça, c'était grave comme situation. Puis on a décidé d'investir massivement dans le marketing. Donc c'est là un peu la même directrice marketing qui était directrice RH dans le temps, qui est vraiment aujourd'hui focus sur la notoriété d'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître? Donc investissement sur LinkedIn, des campagnes marketing, le podcast qu'on a mis en place aussi de notre côté, l'update Third Bridge. Et ça a été vraiment, là, c'est le focus de bâtir la notoriété pour qu'on puisse commencer à se faire reconnaître ici, localement, au Québec. Fait que ça, c'est une première chose. On a aussi juste des stratégies d'expansion. Donc, il faut être réaliste. Il faut qu'on aille chercher des gros comptes. On vise pas chez Third Bridge la quantité de projets. On n'en veut pas 150 projets. On aimerait, honnêtement, avoir une douzaine de clients majeurs qui représentent l'entièreté de notre portfolio client, puis avec qui qu'on est capable de croître dans le temps. Donc, c'est vraiment la stratégie. Puis pour faire ça, ben on se pose des bonnes questions. Est-ce que c'est au Québec qu'on va trouver ces clients majeurs-là? Est-ce que c'est le reste du Canada? Est-ce que c'est aux États-Unis, en Europe? Puis je dirais, pour l'instant, nos démarches nous emmènent vraiment vers nos voisins du Sud, aux États-Unis. C'est là qu'on voit vraiment le potentiel d'aller chercher ces clients majeurs-là qui vont pouvoir nous permettre de rebalancer un peu notre portfolio de clients.
Intéressant. Et dis-moi, comment ça s'est mis en place, ce marketing-là? Je sais que vous avez un podcast, l'update, vous faites des efforts. Comment vous êtes venu à l'idée de se dire c'est un podcast qu'on a de besoin? Et peut-être également, tu peux nous dire quels ont été les résultats de vos initiatives marketing?
Oui, ça a été... Donc, initialement, c'était effort marketing, image de marque. Donc, on a quand même bâti une belle brand autour de Third Bridge. C'est juste qu'on a ajusté le message vers nos clients versus où on veut parler de notre offre de service, on veut parler de qu'est-ce qu'on fait, nos réalisations versus de à quel point qu'on est cool puis venez travailler chez nous. Donc, ça a été... qu'est-ce qu'on a fait? Ultimement, on essaie des trucs. Donc, on n'a pas une énorme équipe. On n'avait pas un énorme budget. Là, le budget augmente puisqu'on se rend compte que ça crée de l'impact. Mais ça a été justement des belles campagnes marketing. Essayer des trucs que nos compétiteurs faisaient pas. Du SEM, on se rendait compte que nos compétiteurs étaient pas investis dans Google Search. Donc, il n'y avait pas nécessairement d'investissement à ce niveau-là. Pourquoi pas nous commencer à investir un peu plus à ce niveau-là? Puis tranquillement, ce qui arrive, les retombées de tout ça, c'est on reçoit des courriels pour des appels d'offres. Finalement, on se fait inviter. Finalement, on se fait reconnaître par l'industrie comme étant un joueur. Puis j'ai reçu beaucoup aussi d'appels de nos compétiteurs pour faire des mergers, de vendre l'entreprise parce que les gens voyaient qu'est-ce qu'on faisait était bien. Par contre, c'est pas du tout aligné avec notre vision. Donc le téléphone sonne beaucoup plus par lui-même qu'avant. Avant, c'était que du référencement, que du bouche-à-oreille. Aujourd'hui, on a vraiment du inbound qui commence à rentrer. Puis ça, c'est le fun. Ça, c'est excitant à voir convertir parce que ça prend du temps. C'est pas des retombées qui se passent du jour au lendemain. Je dirais, ça fait quelques mois seulement qu'on commence à avoir une transition. Le podcast, je pense qu'on en parlait la semaine dernière. Tu me disais, ça a pris peut-être un de tes balados, ça prend 100 épisodes avant que tu vois des retombées. Donc, on en est encore là aujourd'hui. On essaie des choses. On veut montrer nos propres couleurs via le podcast. On est qui? Qu'est-ce qu'on fait? Mais ultimement, c'est une game de notoriété pour nous. Puis ça va se faire sur le long terme. Donc, on n'est pas encore en train de tout récolter. mais on commence à avoir déjà des impacts, surtout au niveau du inbound. On voit la qualité qui commence à être là. C'est plus des petits projets de mom and pop shop qui rentrent sur notre contact form. On est vraiment mieux positionné.
Intéressant, fascinant même. Bon, et toi, ton rôle? Mm-hmm. Où ton temps va maintenant? On s'entend, le CEO au début, c'est un peu le pompier de service. On fait tout. On fait du RH, on fait du marketing, on fait des ventes, on fait encore un petit peu de projet. Peut-être que c'était ton rôle quand vous étiez 8. J'imagine que ça doit plus être ton rôle quand vous êtes 60. Comment ton rôle évolue à travers les années? Et peut-être même si tu peux nous dire à quoi ressemble ton
quotidien. Ça a vraiment évolué. Puis pour le mieux, je faisais des choses qui mettaient pas en valeur nécessairement mes habiletés. Donc évidemment, comme tu l'as dit au début, je faisais tout. Là. Je faisais un peu de développement, je faisais du design, je faisais de la comptabilité. Tout ça tranquillement, on est capable de le déléguer à des personnes qui sont des experts. Puis mon rôle prend de plus en plus une traque développement des affaires puis gestion des comptes majeurs. Donc évidemment, on a ces gros comptes là qui demandent beaucoup d'amour. Faut pas qu'ils tombent ces projets là. Donc il y a beaucoup de montants qui va à maintenir ces relations là, s'assurer que on fait le meilleur travail possible. Puis de l'autre côté, mais c'est le développement de la business. Donc la stratégie, développement des affaires, où est-ce qu'on va se positionner? Je te parle un peu du développement aux États-Unis. Ça tombe dans mon assiette. C'est moi qui dois être sur le terrain, qui dois aller serrer les mains pour nous faire connaître. Puis donc là, avec le développement de l'entreprise, il y a beaucoup de travail de terrain qui recommence à être fait de mon côté.
Donc, on s'en va rencontrer des gens dans des événements, on se présente devant des grandes entreprises et on veut essayer d'aller chercher des nouveaux comptes. C'est un peu ce que tu fais en ce moment.
Exact. Tout en bâtissant l'équipe. Donc, avec moi, de très près, c'est l'équipe marketing. De très près, c'est l'équipe de développement des affaires. Puis, on travaille ensemble pour mettre en place nos stratégies, nos objectifs. Par contre, est-ce que il y a beaucoup de coups de fil qui se donnent de mon côté par jour? Rassurer les clients quand ça va moins bien, c'est moi qu'il faut qu'il rassure encore les clients. Et puis c'est important. Et j'aime cet aspect-là. Je pense que c'est là que je peux avoir un impact. Puis ouais, justement les nouveaux marchés, mais faut être là. Et tu peux pas envoyer personne d'autre. Et faut que ça soit toi le visage de l'entreprise. C'est toi qu'il faut qu'il aille rencontrer les gens. Donc ça c'est mon quotidien ces temps-ci.
Et à quoi ressemble le futur de Third Bridge pour les 12, 24, 36 prochains mois?
Ouais, c'est vraiment excitant. Qu'est-ce qui s'en vient là, peut-être grossièrement là, disons court terme, les 12 prochains mois, ouverture d'une filiale aux États-Unis, c'est vraiment dans la mire. Donc aller chercher nos premiers projets américains, ça c'est l'objectif, nos premières embauches à l'international. Donc autant aux États-Unis que peut-être ailleurs dans le monde, on va voir un peu comment les choses se placent. Mais ça va être peut-être un premier pas vers cette direction-là. Puis, sur le moyen terme, peut-être 24-36, on parle de doubler notre entreprise. On parle de vraiment aller chercher une belle croissance pour dérisquer un peu aussi nos comptes majeurs, mais aussi pour garder notre équipe stimulée. On veut aller chercher les meilleurs projets qui sont disponibles dans l'industrie. On veut les challenger. On veut que ce soit aussi des projets d'impact. Donc, pour aller les chercher, il faut grandir. Puis, on parle d'une croissance organique. Aussi. C'est ça notre stratégie sur le court-moyen terme. Rester organique, maintenir cette culture-là le plus fort possible, mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Donc, on commence vraiment à bien se structurer puis on se rend compte qu'après peut-être ces 36 prochains mois-là, on va être dans une position pour commencer à faire des acquisitions s'il y a des opportunités. Mais sur le court terme, on parle de croissance organique, doubler la business, aller chercher une belle position au Québec, être vraiment un leader dominant, puis aux États-Unis commencer à aller bien se positionner pour ramener de la business.
Et bon, petite question personnelle, j'aime toujours savoir ce que mes invités lisent. Est-ce qu'il y a des livres qui ont marqué ton imaginaire, des livres d'affaires?
Ouais, c'est assez récent la lecture d'affaires pour moi c'est assez récent et j'avais souvent des irritants à lire seul. J'ai beaucoup d'associés, puis on dirait des fois j'avais plein de bonnes idées, mais c'était dur à les retransmettre. Puis là, j'ai des book clubs. Donc ça, c'est vraiment le fun, autant avec un groupe d'entrepreneurs avec lesquels je suis que mes associés. On lit les mêmes livres, puis on est capable de se partager un peu nos notes, nos idées. Puis je trouve que là, ça commence à avoir de l'impact. Fait que tu parles de livres qui marquent l'imaginaire. Évidemment, un qui est essentiel pour notre business, c'est Traction. Donc, on a iOS qui est en place et qu'on continue à implémenter. On n'est pas parfait, mais on continue à mettre beaucoup d'efforts là-dedans. Puis ça fait toute une différence pour notre business. Là, je suis en train de lire, par exemple, Turn the Ship Around, qui est sur le style de management, donc de leader à leader. Comment est-ce que tu fais pour donner encore plus de pouvoir à ton équipe, pour pouvoir prendre des décisions? Je trouve ça fascinant, vraiment à ce niveau-là. Puis, je te dirais, c'est qu'est-ce que je lis ces temps-ci, mais vraiment, c'est le chiffre de pouvoir en parler avec d'autres personnes qui, pour moi, prend tout son sens. Le faire toute seule, j'avais un peu de misère, pour être honnête, Antoine.
Comprends. Podcast, est-ce que tu en écoutes?
Oui, mais j'écoute beaucoup les podcasts québécois. Donc, ça se passe par croissance, sans faute. Les dérangeants, puis évidemment, l'update. Quand c'est pas moi qui fais les épisodes, j'adore les écouter. J'adore écouter ma gang. Je suis fier d'eux. Donc, c'est le fun. Puis évidemment, sur la scène plus internationale, je trouve un incontournable, c'est Lex Fridman. Aller chercher des entrevues que très peu de personnes peuvent avoir dans le monde. Donc, je trouve ça tout le temps fascinant, ces entrevues.
Il est fort sur Lex Fridman. Très, 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 très fort. Et bon, on termine. À quoi ressemble la routine avant, pendant et après le travail? Si bien entendu, tu as une routine.
Ouais, tu parlais de lecture tantôt. Atomic Habits, ça a été un livre qui m'a beaucoup parlé. Puis, je te dirais, la routine, on essaie de la maîtriser. C'est pas toujours facile avec des fois les voyagements puis se promener, mais ultimement, on commence la journée avec un peu de sport, la marche des chiens ou un workout. Je passe du temps avec la famille aussi le matin le plus possible. Donc c'est pas mes parents, ça va être évidemment ma conjointe que je vais passer du temps avec elle. Ensuite le travail, puis on tombe un peu dans la routine. On a nos niveaux 10, toutes les meetings iOS qui sont en place. Donc évidemment ça c'est coup sur coup, on les lâche pas. Ça va remplir ma journée, rencontre client, lunch client, pour ensuite finir avec la famille, une autre grosse période de famille. Puis souvent je me couche très tôt pour me lever le plus tôt possible. Puis ça fait de moi un ami assez plate, merci, mais, mais ça me convient, c'est correct.
Mais c'est ça, à un certain moment donné, il faut être capable de trouver qu'est-ce qui fonctionne
exact.
Pour nous. Donc, intéressant tout ça. Écoute, Pierre-Étienne, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Si on veut en savoir plus sur Turbridge, meilleur endroit pour vous rejoindre?
Ça va être le site Internet, ça va être notre LinkedIn. On est assez présent, donc vous allez voir 4 à 5 publications par semaine de notre équipe. Puis, manquez pas le podcast, l'update. On va avoir des invités de grande qualité. Puis voilà, je pense que toute l'information va se retrouver sur ces plateformes.
Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Pierre-Étienne, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.